Le vieux monsieur. C'étaient deux hommes politiques. L'un avait été ambassadeur, l'autre le devenait. Ils étaient tous deux à causer confidentiellement, fauteuil contre fauteuil, toutes portes fermées. Un ami commun survint, qui, voyant les deux diplomates ainsi causant, dit, pensant qu'ils débattaient la question d'Orient ou les bases du Solferein, « Je vous dérange ?»« Non, mon cher, dit l'ambassadeur, vous pouvez rester. Nous sommes en train de discuter si l'on doit porter ces décorations rue de Breda. Moi, je dis oui, lui dit non. Qu'en dites-vous » Il paraît que l'ami dit comme l'ambassadeur, car le vieux monsieur chez la Lorette est toujours décoré. Le vieux monsieur à l'âge où l'on marchande des baudouins, où l'on se rase à 4 heures du matin, le matin d'un rendez-vous, où l'on achète les œuvres badines de Piron. L'âge où l'on a les oreilles moussues, où le valet de chambre sourit certains soirs en coiffant le maître, où l'on est revenu du mariage, où les cravates blanches vont bien, où l'on saisit sa lorgnette comme à la moctave se baisse, où les cheveux grisonnent, où l'on croit à la jalousie d'une maîtresse, où les femmes vous estiment, où les illusions recommencent, où l'on vous prend comme conseil pour marier une fille, où l'amour s'attendrit, où le cœur tombe en enfance, l'âge où Mercure vous mène en se moquant à la Vénus à vendre. Le vieux monsieur sait que le linge est la réhabilitation du vieillard et arrive toujours de linge blanc vêtu des pieds au cou. On en a cependant vu de très sales. Quand il va à un rendez-vous, il a la bouche en cœur, la démarche juvénile et donne sur sa route des poignées de main aux gens qu'il salue. Il s'informe de la santé de la bonne, qui lui fait les cornes comme une servante de Molière, et donne un morceau de sucre au King Charles qui aboie après les vieux. Quand il entre, le vieux monsieur est défiant comme expérience, et quand il entre, il inspecte les patères de l'antichambre, glisse l'œil sur la cheminée, sur les fauteuils, puis sous le lit. Mais si par hasard il venait à regarder plus haut et à ne pas voir madame seule, il dirait comme ce mari, jure-moi que tu ne m'as pas trompé. Il veut un bon feu quand il arrive, des attentions de petits plats quand il dîne, de la complaisance, du thé noir et la tête haute et le côté droit du lit quand il a bien dîné. Il veut encore être aimé pour lui et donnerait 20 000 francs à une femme pour être son amant de cœur. Il se fait plaisantin dans le tête-à-tête pour faire rire la Lorette et remonte au calembour de Carivernet. Quand le vieux monsieur rencontre un jeune homme chez la Lorette et que la Lorette les laisse seuls ensemble, le vieux monsieur croise une jambe puis l'autre, regarde l'heure et demande au jeune homme s'il a entendu le dernier sermon du père Lacordaire, où lui raconte ses chasses au Rancy. Quand le jeune homme est sorti, le vieux monsieur prêche pour son saint, énumère à la Lorette les charmes de la foi gardée, les récompenses terrestres de la fidélité, et lui fait un cours de morale pour la prémunir contre ce qui est beau et ce qui est jeune. Il est jaloux des gens qui ont des cheveux, jaloux des gens qui ont leurs dents, jaloux des gens qui n'ont pas de ventre, jaloux des gens qui portent des moustaches, jaloux des gens qui n'en ont pas encore, jaloux des gens qu'ils rencontrent, jaloux des gens qui ne rencontrent pas et boudent les romans qui donnent toujours 25 ans à l'amoureux. Il se cache du monde, du soleil, des lumières. Il est amoureux de nuit et de mystère. Il lui faut l'hiver, l'ombre d'une baignoire. Il passe les premières soirées du printemps à chercher sur la carte des environs de Paris un village utopique, loin d'une route départementale, communale, vicinale. Il apporte à la Lorette de l'or tout neuf. Il fait porter à la Lorette de chez Chevet le premier régime de bananes, de chez Roc le flacon en cristal de roche qu'elle a marchandé hier. Il a donné à la mère de la Lorette la porte d'une de ses maisons. Il fournit la Lorette de cigares. Il paye le soir les vases de Saxe qu'un monsieur de passage a donnés à la Lorette et qu'elle lui dit avoir acheté le matin. Il a eu pour la Lorette des billets le jour où monsieur de Musset a été reçu de l'Académie. Il a désintéressé le patron que le frère de la Lorette avait volé. Il a fait venir à la Lorette un chien d'Angleterre et des coussins de cygne de la province d'Oran. Il a promis à la Lorette de la faire débuter à Chanterenne. Il a été voir pour se faire un journaliste qu'il n'a pas vu depuis le collège. Il achète à la Lorette des fruits chez Maillet et toutes les fois qu'il revient de la campagne. Il porte une ceinture hypogastrique, mais des bottes qui lui font mal, ceint des gilets de flanelle rose. Le vieux monsieur se sait toujours attendu, les mains pleines. Fleurs ou bonbons ou babioles, peu importe, pourvu qu'il n'ait pas les mains vides. Si bien qu'il lui arrive quelquefois d'apporter le constitutionnel pour apporter quelque chose. Il fait tout cela, il est tout cela. Et que fait à la Lorette ? La petite Lacour, dit Champfort, traitait ainsi le duc de la Vallière. Elle lui ôta son cordon bleu, le mettait à terre et lui disait « Mets-toi à genoux là-dessus, vieille ducaille !» Ainsi il se met à genoux sur sa vieillesse, le misérable vieillard. Rivé au pieu, ce mot terrible dont l'argot a baptisé le lit des sales amours, il a fait de ses cheveux blancs le hochet de la Lorette. Et puis vient un jour où la femelle, rentée par lui, lui crache brutal et cynique ses dégoûts à la face. Eh bien, va en trouver une autre pour aimer un homme qui s'en lance. Et quelquefois, il a laissé, seul auprès du feu, une belle jeune fille, sa fille, qui se demande, le cœur gros, pourquoi son père sort tous les jours après dîner, et si n'est qu'il ne l'aime plus.